journal du midi. Zeynab Diomandé.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vie de nos institutions, pour la première fois dans notre pays, une femme prend les rênes du Sénat et c'est l'ex-ministre Kandia Kamisoko Camara, élue hier avec 91 voix sur 97. Vous l'entendrez en début de ce journal, une élection sur laquelle reviendra le juriste et politologue Geoffroy Julien Kouaou dans l'invité de la rédaction en compagnie de Constant Maillé. À Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle reportée d'une semaine. Et puis en sport football, les dés sont jetés. Toutes les 24 équipes de la CAN 2023 connaissent leur adversaire. Le tirage au sort s'est fait hier. Les détails dans ce journal. Bonjour à vous, bienvenue. Depuis quelques jours, son nom était sur les lèvres des Ivoiriens et c'est sans surprise que l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Camara, a été élue présidente du Sénat hier jeudi 12 octobre 2023. Elle succède ainsi au président sortant Assou Kouadio Jeannot et devient ainsi le cinquième personnage de l'État ivoirien. Elle est la première femme à diriger cette institution parlementaire créée il y a 5 ans en ligne de Yamoussoukro et Miliao.
Avec 94% des suffrages exprimés, Kandia Kamisoko Camara a été élu à la tête du Sénat ivoirien pour les 5 prochaines années et ce, en remplacement du président sortant Assou Kouadio Jeannot. Dans son discours d'orientation, elle s'est engagée à rassembler en vue du rayonnement de l'institution.
Je m'efforcerai d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueuse des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce.
Kandia Kamisoko Camara a également félicité et rendu hommage à son prédécesseur ainsi qu'à l'ensemble de toute l'équipe sortante de la première législature.
Je voudrais rendre un hommage appuyé à M. Jeannot Assou Kouadio. Il a su relever avec l'ensemble des sénateurs de la première législature le défi de la légitimité de cette institution.
Première femme à présider une chambre de parlement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'élection de Kandia Kamisoko Camara reste un acte fort, voire l'expression du respect de la parité en Eburni, selon de nombreux observateurs.
Ministre Anne Désiré Ouloto, je suis heureuse pour ma sœur Kandia, à qui je souhaite plein succès pour que la Côte d'Ivoire continue de faire confiance à la femme.
Député Yakoto Olivier, je vais lui souhaiter un très bon vent dans cette nouvelle mission. En même temps, dit que ça aussi est un clin d'œil à la promotion des gens et j'apprécie cela.
Rappelons que la séance inaugurale consistant à élire le président du Sénat marque également l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 de cette institution. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Cette élection de Kandia Camara à la présidence de la Chambre haute du Parlement suscite bien de réactions. Parmi ces réactions figure celle de quelques présidents d'institutions de Côte d'Ivoire, notamment le président du Conseil économique, environnemental et social à Kaouélé, l'inspecteur général d'État à Wandoli Théophile, le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Epiphane Zorobi, et enfin le président de l'Assemblée nationale, Adam.
Il faut des institutions fortes tenues par les hautes personnalités de ce pays. Et ce qu'il faut noter ici, c'est le fait que nous avons la toute première femme de Côte d'Ivoire, conformément aux vœux du président de la République, qui tient aujourd'hui la deuxième chambre parlementaire, la haute chambre. Je crois que cela est à saluer et cela démontre que les institutions sont en marche dans ce pays pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire avec le gouvernement.
L'élection de Mme Kandia Camara comme présidente du Sénat, la deuxième chambre de notre Parlement. Nous sommes contents, d'abord parce que nous connaissons la personne. Nous savons que c'est un très bon choix qui a été fait et avec elle, nous sommes sûrs que cette deuxième chambre irait toujours de l'avant.
Nous sommes fiers de la désignation de Mme Kandia Camara en tant que première femme ivoirienne qui préside une institution parlementaire à l'image du Sénat. C'est une vraie fierté, une légitime fierté et nous plaçons tout l'espoir que le Sénat va jouer pleinement son rôle sous sa responsabilité en termes de renforcement du développement local, parce que le Sénat a cette particularité d'être la représentation des collectivités décentralisées et nous plaçons tout l'espoir, étant donné que la présidente du Sénat est également maire de la commune d'Abobo, nous plaçons tout l'espoir que la présence de Mme Kandia Camara en tant que présidente du Sénat va booster le développement local.
Le président de la République, en désignant la ministre d'État Kandia Camara, vient donc de faire une fois de plus un geste envers les femmes. Et comme il a déjà montré, il a toujours dit que les femmes occupaient une place importante dans notre société et qu'il avait fixé des objectifs, ce qui nous a amené à adopter au plan de la loi la parité avec les femmes, en tout cas une quote-part importante pour les femmes. Et de façon historique, c'est la première femme qui va donc diriger une institution. Nous sommes deux chambres et mes relations avec la ministre d'État Kandia datent depuis 1995. Donc c'est vous dire le parcours que nous avons connu ensemble. Et donc je suis un homme heureux. Je voudrais saluer le président Aoussou qui a tout donné, homme de devoir, homme d'engagement, homme de mission.
À l'instant, les présidents d'institutions au micro d'Émile Yao. Après la dissolution du gouvernement le vendredi 6 octobre dernier par le président de la République, une semaine après, quelle est l'atmosphère dans les cabinets ministériels? Jean-Mélène Bitti était sur le terrain. Il nous livre son contrat.
Dans l'attente de la nomination du prochain Premier ministre et du nouveau gouvernement ivoirien par le président Alassane Ouattara, l'expédition des affaires courantes a été confiée au ministre sortant. Dans cette attente, le constat dans les différents cabinets ministériels est clair. Les activités sont au ralenti dans une atmosphère morose. Au ministère de la Culture et de la Francophonie, à la Tour E, tous les agents sont à leur poste et vaquent à leurs occupations dans une ambiance peu joyeuse avec moins d'affluence. Dans ce ministère approché, le chef de cabinet a refusé toute communication car n'ayant pas une autorisation de sa hiérarchie, elle s'en est donc abstenue. D'une tour à une autre, à la Tour A, au ministère des Sports, au deuxième étage, nos démarches ont été vaines. Un peu plus haut, au 14e étage de ce même bâtiment, au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, c'est le même constat. Il nous faut obligatoirement avoir un rendez-vous pour espérer être reçu. Au ministère des Eaux et Forêts, en passant par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, personne n'a accepté de répondre à nos sollicitations. Une chose est sûre, les regards et attentions sont tous tournés vers la présidence de la République dans l'attente d'un nouveau gouvernement, une annonce qui viendra certainement détendre l'atmosphère dans ces ministères qui est de plus en plus lourde.
L'université Jean-Laurignon-Guédé de Dalloa a effectué récemment sa rentrée solennelle sous le signe de l'employabilité de ses étudiants. Cette cérémonie qui marque officiellement le démarrage de l'année universitaire 2023-2024 avait pour thème un enseignement supérieur d'excellence et d'innovation pour une meilleure employabilité de la jeunesse. Jean-Noël Kwame. Un mot de santé à présent, la digitalisation dans la lutte contre les cancers du sein, de la théorie à la pratique, et tel est le thème officiel des activités de la campagne d'octobre rose 2023, lancée le mercredi 11 octobre par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'activité s'est tenue au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, compte rendu signé Mata Touré.
Cette campagne qui se déroule au cours du mois d'octobre vise à sensibiliser à toutes les couches sociales sur le cancer du sein chez la femme et l'intérêt à se faire dépister. Elle vise près de 5 millions de femmes. Le professeur Didi Koko Koulibaly Judith est la directrice du Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie. Elle nous dresse ici un bilan des résultats obtenus depuis son ouverture.
La Côte d'Ivoire a réussi depuis l'ouverture de cet hôpital à réduire de 25% le risque de décès par cancer du sein. l'hôpital a reçu plus de 10 000 nouveaux patients et 1 818 personnes exactement au 30 septembre 2023 avaient été reçues ici pour un cancer du sein. À 3 ans, tous les stades confondus, 63 personnes étaient en vie sur 100. Mais lorsqu'on a extrait le sous-groupe de personnes chez qui ça avait été découvert tôt au décours d'un dépistage, on s'est rendu compte que 81 personnes étaient en vie. D'où l'intérêt du dépistage.
Pierre Ngoudemba, ministre ivoirien de la Santé, nous fait le point en Côte d'Ivoire.
Le cancer constitue un véritable problème de santé publique dans le monde. Et la Côte d'Ivoire, notre pays n'est pas en reste, avec plus de 17 300 nouveaux cas de cancer par an. Le cancer du sein en Côte d'Ivoire représente 19% de tous les cancers et 33% des cancers féminins. Le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est découvert tôt et correctement traité.
La première dame Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, a relevé l'importance de la plateforme digitale baptisée CNRAO Stop Cancer, qui servira à rappeler aux usagers les dates, lieux et coûts des actions de dépistage.
L'université Jean-Laurignon-Guédé de Dalloa a effectué récemment sa rentrée solennelle sous le signe de l'employabilité de ses étudiants. Cette cérémonie, qui marque officiellement le démarrage de l'année universitaire 2023-2024, avait pour thème un enseignement supérieur d'excellence et d'innovation pour une meilleure employabilité de la jeunesse. Jean-Noël Kwame.
Au cours de cette cérémonie de rentrée solennelle, la présidente de l'université Jean-Laurignon-Guédé, le professeur Adoï Krou Viviane, a expliqué les réformes initiées dans le système universitaire par le gouvernement.
Il y a une loi nouvelle. L'université change complètement de statut. L'État ne peut pas être le seul employeur de la Côte d'Ivoire. Donc on met l'accent sur l'auto-emploi. Il y a un socle qui sera donné à tous les étudiants. L'anglais, il faut être parfaitement bilingue pour pouvoir affronter les marchés extérieurs. Aujourd'hui, l'informatique est incontournable. Il faut des notions d'entrepreneuriat et il y a le socle aussi de montage de projets. Si vous ne savez pas monter des projets, vous ne pouvez pas avoir de financement. Nous devons revoir tous nos curricula, adapter nos curricula à l'employabilité.
Le vice-président de l'université en charge de la pédagogie, de la vie universitaire, de la recherche et de l'innovation technologique, le professeur Soro Donimeton, a insisté pour sa part sur la qualité de la formation.
Nous pourrions être autour de 7% de diplômés insérés à l'ENS, les sciences de la vie et de la terre, les diplômes de IGLOG sont parmi les meilleurs. Le nombre de docteurs sortis de IGLOG, une trentaine. Nous avons au moins la moitié qui est recrutée. La formation est de qualité.
Le conférencier, le professeur Justin Yati Kwadio, a préconisé, entre autres solutions, l'association des employeurs à l'élaboration des programmes de formation et le développement d'entreprises innovantes au sein de l'université pour l'amélioration de l'employabilité des étudiants au terme de leur formation. Jean-Noël Kwame, Dalloa, Radio de la Paix.
On met le cap sûrement à présent où les nouveaux prix du carburant à la pompe annoncés le 1er octobre 2023 inquiètent plus d'un, notamment les commerçants et consommateurs de la région du Tonkoui. Les responsables de ces secteurs l'ont fait savoir récemment au cours d'une tribune d'échange à l'initiative du corps préfectoral de Mans et la direction départementale des transports, suivant cette correspondance de Stéphane Adams.
À l'entame des échanges, les transporteurs ont fait connaître leurs préoccupations du moment.
Monsieur le préfet, nous on a accepté qu'on ne va pas augmenter le transport compte tenu de l'augmentation du carburant parce que le gouvernement a accepté de nous accorder les 33 barrages. Mais il y a barrages partout. Dans l'année, il y en a. Vianquement, il y en a. Vélé, il y en a. Vumbé, il y en a. Sous la de Quibri, il y en a. Si on veut calculer, il y a 6 à Manville. Monsieur le préfet, essayez de voir le problème des barrages. C'est ce que nous demandons.
Face à l'enjeu lié au volet sécuritaire, le préfet des régions du Tonkoui, Wamblignon Célestin, préfet du département de Mans, s'est voulu clair et précis.
On ne peut commercer que dans un environnement sécuritaire appréciable, que dans une paix appréciable. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Et donc, quand vous posez des préoccupations, il faut en tenir compte. Et n'oubliez pas, le terrorisme est une guerre asymétrique qui peut subvenir à n'importe quel endroit de la planète. Et c'est lorsque ça frappe qu'on est surpris et qu'on prend les dispositions. Or, la Côte d'Ivoire a décidé d'être dans la prévention, d'où la politique de police de proximité. C'est cette activité qui doit se mener avec vous, mais à partir d'un écosystème. Si déjà le maillage ne permet pas de perdre telle activité, ben on est tous livrés à ces choses-là.
Sentiment du directeur départemental des transports de Mans. En fin de rencontre, Djebi Irie Wilson.
C'est de remercier les transporteurs de la région du Tonkoui qui se sont donc alignés sur la décision du gouvernement. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs de transport à Mans.
A noter que la présence des chefs de commandement de police et de la gendarmerie était observée à cette tribune d'échange. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
La route de l'actualité nous mène à présent à Madagascar où la Haute Cour constitutionnelle a annoncé le report d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle initialement prévue le 9 novembre. La campagne a démarré mardi dans un climat délétère. Les candidats d'opposition réunis au sein du collectif des 11 ont refusé d'y participer tant qu'un accord politique pour des élections justes et acceptées par tous n'avait pas été conclu avec le gouvernement. En sport football, l'on connaît depuis hier soir la composition des 6 poules de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 qui se déroulera en terre ivoirienne. À cet effet, les éléphants de Côte d'Ivoire sont logés dans la poule A en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et ils joueront au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le président du COCAN, François Albert Amichia, a rappelé les ambitions, les assurances et les challenges de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire s'apprête à relever. Nous l'écoutons.
La Côte d'Ivoire a organisé la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football et nous étions au 20e siècle. 40 ans plus tard, la Côte d'Ivoire organisera la 34e édition de la CAN dans ce 21e siècle, marqué par l'hypermédiatisation des événements sportifs et la marchandisation du sport, conjuguée à l'essor prodigieux du digital et des réseaux sociaux. En effet, la CAN 2023, c'est 147 000 minutes de direct, 23 chaînes télé, 60 diffuseurs dans 90 pays, 650 millions de vues, 1 500 000 spectateurs attendus dans les stades pour 600 millions de téléspectateurs escomptés. La CAN 2023, ce sont 6 stades de compétition, 24 terrains d'entraînement, 24 équipes, 1 300 joueurs, 52 matchs, 101 arbitres, assistants arbitres et instructeurs VAR. 10 000 volontaires et 350 chefs de projet. Dans cette CAN de l'hospitalité, qui n'est pas seulement l'accueil de l'autre, mais le respect de l'autre dans sa différence et sa diversité, nous faisons le défi qu'aucun match ne se joue devant des tribunes vides.
À l'instant, François Albert Amichia, président du COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023. Place à présent à l'invité de la rédaction, il s'agit de Geoffroy Julien Kouao. Il est juriste et politologue. Avec notre invité, nous parlons d'élection de Kandia Camara à la tête du Sénat de Côte d'Ivoire. Geoffroy Julien Kouao répond aux questions de Constant Maillé.
Monsieur Geoffroy Julien Kouao, bonjour.
Bonjour Monsieur Constant Maillé.
Le Sénat ivoirien a une nouvelle présidente, anciennement chef de la diplomatie ivoirienne. Bon, on a envie de savoir, est-ce que l'élection de Kandia Camara à la tête du Sénat a été pour vous une surprise? Surtout que son nom a été cité parmi les sénateurs nommés récemment par le chef de l'État.
Non, ce n'est pas vraiment une surprise. En ce sens que, depuis quelques jours, le nom de Madame Kandia Camara Kamisoko figurait parmi les 33 sénateurs nommés. Et vu son statut politique, vu le fait qu'elle est une des hiérarques du parti au pouvoir, les observateurs ont vite fait de penser que sa présence parmi les 33 sénateurs nommés présageait du fait qu'elle serait certainement la future présidente du Sénat.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que le président du Sénat mérite d'être désigné parmi les sénateur élu?
Écoutez, c'est une opinion qui est respectable, mais qui est aussi discutable, parce qu'il n'y a pas de différence entre le sénateur élu et le sénateur nommé. À partir du moment où c'est la Constitution qui dispose que 2/3 des sénateurs sont élus et 1/3 nommés par le président de la République, qu'ils soient élus ou nommés, ils sont tous des sénateurs avec le même statut et avec les mêmes attributions. Dès lors qu'il n'y a pas de différence, un sénateur élu peut présider le Sénat, de même qu'un sénateur non élu, c'est-à-dire nommé par le président de la République, peut également le faire. Évidemment, je comprends un peu la préoccupation de ceux qui pensent qu'un sénateur non élu n'a pas de légitimité. Mais dans le cas, par exemple, de Mme Kandia Camara Kamisoko, n'oublions pas qu'elle est non seulement élue députée, mais elle est également élue maire. Donc, c'est une dame qui a une certaine légitimité politique en Côte d'Ivoire.
Pourquoi l'on pense que le Sénat est une sorte de retraite qui ne dit pas son nom pour Kandia Camara quand on sait qu'elle a été chef de la diplomatie?
Pour moi, c'est une promotion. Madame Kandia Camara, d'abord, était au ministère de l'Éducation nationale. Elle y a passé près d'une décennie. Et après, elle est allée au niveau de la diplomatie. Et maintenant, elle est présidente d'institution. Ensuite, plus, elle devient maintenant législateur. Et là, c'est un travail extrêmement honorable. Donc, contrairement à ce que les gens disent, je pense plutôt que c'est une promotion qui récompense une femme loyale, fidèle au président de la République.
Le Sénat est à sa deuxième législature. Alors, selon vous, dans sa configuration actuelle, est-ce qu'elle participe à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire?
Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans une république, dans une démocratie, la vérité procède de la loi, qu'elle soit constitutionnelle ou bien une loi ordinaire. C'est la constitution qui définit la composition du Sénat et c'est la loi électorale qui définit le mode d'élection des sénateurs. C'est vrai que le RHDP a eu une victoire extrêmement écrasante. Maintenant, il est évident que avec cette seule présence, avec une minorité extrême de l'opposition, est-ce qu'il aura vraiment un Sénat qui va jouer le rôle de contre-pouvoir? Évidemment que non.
Est-ce que le mode de désignation des sénateurs, qui est un mode hybride, élu et nommé par le chef de l'État, ne fragilise pas un peu cette chambre haute du Parlement, contrairement à la chambre basse où tous les députés sont élus?
Il faut dire deux choses. D'abord, c'est la Constitution qui dispose que le président nomme un tiers des sénateurs et c'est la même Constitution qui dispose que deux tiers des sénateurs sont élus. Donc, il y a une base légale. Évidemment, la nomination des sénateurs pose un problème de séparation des pouvoirs parce que le président de la République est le chef de l'exécutif et on sait très bien que notre Constitution, dans son préambule, consacre la séparation des pouvoirs. Or, en nommant une partie des sénateurs, cela pose un problème d'immission de l'exécutif dans le législatif. Peut-être que pour l'avenir, il faudrait penser à une révision de la Constitution allant dans le sens de l'élection des 99 sénateurs.
Est-ce qu'il y a des exemples de pays où on élit tous les sénateurs?
Oui. Par exemple, prenons le cas de la France, prenons le cas des États-Unis. En principe, un poste aussi important, un poste politique comme celui de législateur, devrait être réservé à des personnes simplement élues, parce que c'est l'élection qui donne la légitimité. Nous sommes dans une démocratie représentative. Et donc, les gouvernants devraient, en principe, pour mieux représenter les gouvernés, être élus par ceux-ci. Dans une démocratie, c'est l'élection qui consacre, qui donne l'onction de légitimité.
Monsieur Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur Constant Maïlé.
À l'instant, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et politologue interrogé par Constant Maïlé. Et c'est ici que se referme ce journal, mais avant le rappel de l'essentiel. Vie de nos institutions, pour la première fois dans notre pays, une femme prend les rênes du Sénat et c'est l'ex-ministre Kandia Kamisoko Camara, élue hier avec 91 voix sur 97 votants. À Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle reporté d'une semaine. Et puis merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Didier Blé pour la revue de presse.
Bonjour à tous. L'actualité ce vendredi 13 octobre 2023 est totalement dominée par deux faits majeurs qui alimentent les quotidiens. Il s'agit en football du tirage au sort de la